est 18h. Le journal de 18h. Sonia Nzian.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Plus de 4000 emplois bientôt générés avec la mine d'or découverte à Tanda par Endeavour Mining. C'est le quatrième investissement à hauteur de 530 milliards de francs CFA du groupe minier canadien dans le pays. Information donnée ce mardi au cours d'une rencontre avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Économie vulgarisée, l'existence des organismes de financement auprès des femmes entrepreneurs et améliorer leur éducation financière, c'est l'une des recommandations formulées à l'issue ce mardi de la 12e édition de la CGC Academy, un événement qui a réuni du 25 au 26 novembre à Abidjan des acteurs de l'économie ivoirienne et internationale. Hors de nos frontières, cybercriminalité, un millier de personnes arrêtées dans 19 pays lors d'une vaste opération en Afrique. 530 milliards de francs CFA, c'est l'investissement du projet de la mine d'or de Tanda, découverte par le groupe canadien Endeavour Mining. L'information a été portée à la connaissance du chef de l'État Alassane Ouattara ce mardi par le président directeur général de ce groupe. Junior Cardin revient bien sûr du palais de la présidence.
C'est tout souriant que le président de la République et ses invités ont reçu la presse pour une des rares fois dans la grande salle d'audience du Grand Palais après leur rencontre. Alassane Ouattara est le premier à prendre la parole.
Je reçois ce mois le président du groupe Endeavour, un groupe minier qui est déjà installé en Côte d'Ivoire, notamment la mine Titi. Et là, il a une très bonne nouvelle à nous annoncer.
Puis, sans tarder, Yann Kokeril, le président directeur général du groupe Endeavour Mining, annonce la nouvelle en question.
Le groupe Endeavour va réaliser son quatrième investissement avec la mine de Tanda qui va en principe produire son premier lingot d'or à la mi-2028. Donc c'est un projet de classe mondiale qui éventuellement va générer plus de 4000 emplois directs et indirects. Alors c'est un projet qui va produire sur toute la durée de la vie d'environ 150 tonnes d'or avec un investissement d'environ 530 milliards de francs CFA.
Avant ce groupe minier, le président de la République a reçu en audience Monseigneur Ignace Bessi Dogo, archevêque d'Abidjan, venu lui faire ses civilités suite à sa prise de possession canonique du siège, comme il l'a fait la veille à l'Assemblée nationale, non sans rappeler les grands chantiers de l'Église en cette période.
L'Église est au cœur du pays. Elle a un rôle à jouer dans la marche du pays. Et ce rôle passe d'abord par la prière, parce que c'est notre métier pour que le peuple se sente en harmonie, qu'il y ait la paix.
Monseigneur Ignace Bessi Dogo a dit être heureux de l'accueil qui lui a été réservé par le président de la République et qu'il a quitté très satisfait par ailleurs.
À présent, parlons de lutte contre le terrorisme en Côte d'Ivoire. Un réseau de l'organisation État islamique aurait été démantelé dans le pays. C'est une information relayée récemment par des médias internationaux et nationaux qui précise que le coup de filet a été rendu possible grâce à une collaboration entre les services de renseignement ivoiriens, américains et français. Spécialiste des questions sécuritaires William Assanvo fait noter que cette organisation terroriste, qu'est l'État islamique, est présente dans plusieurs zones de l'Afrique de l'Ouest et cette information véhiculée par la presse n'est pas étonnante.
Alors, l'État islamique, c'est un des principaux groupes qu'on peut qualifier de terroristes. L'État islamique est le compétiteur de Al-Qaïda actuellement au niveau international, mais aussi au niveau régional. C'est un groupe qui est actif en Afrique de l'Ouest, dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad, au nord-est du Nigeria, en Afrique centrale, et aussi en Afrique australe, donc c'est un des principaux groupes terroristes qui continue à persister par l'existence justement de cellules dormantes qui sont mises en place dans différentes régions du monde.
Une cellule de l'État islamique aurait été démantelée en Côte d'Ivoire, selon la presse. C'est du domaine du vrai?
Alors, pour l'instant, on parle d'individus présumés appartenir au groupe État islamique. Il y a effectivement eu cette information de presse qui a été communiquée et il me semble avoir compris qu'une source gouvernementale ivoirienne aurait confirmé discrètement à un média international l'arrestation de 6 hommes suspectés d'appartenir au groupe État islamique. Donc pour l'instant, impossible de dire avec certitude ce qu'il en est, peut-être en attendant d'avoir une communication officielle du gouvernement de l'autorité ivoirienne. Donc pour l'instant, c'est des informations de cette nature qu'on a.
À l'instant, William Assanvo, spécialiste des questions sécuritaires, en ligne avec Soro Adams. Également dans le fil de l'actualité, depuis hier lundi 25 novembre, se tient à Abidjan une réunion hybride d'experts et de ministres sur la stratégie régionale de résilience pour l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre vise à examiner et valider la stratégie régionale pour faire face aux défis futurs du développement durable en Afrique de l'Ouest. Mel Emmanuel pour le compte rendu.
Présenter le document complet de la stratégie de résilience, participer à des discussions d'experts et obtenir l'approbation officielle des ministres participants, tels sont les points constitutifs de l'objectif général de cette réunion. Elle s'axe sur quatre piliers essentiels, ici présentés par Parfait Kouadio, représentant du ministre de l'Environnement, du Développement Durable et de la Transition écologique de Côte d'Ivoire.
Le premier pilier, donc, c'est sur la gouvernance, le deuxième, l'économie, le troisième, la société et le dernier pilier, l'environnement. Ces piliers interconnectés doivent guider notre action et inspirer nos politiques dans notre région.
La représentante résidente de la CEDEAO en Côte d'Ivoire est revenue sur l'importance de cette réunion quant aux résultats attendus. Fantasissé.
Cette réunion marque une étape importante dans des efforts collectifs visant à renforcer la région dans un esprit de stabilité, de paix et de développement régionaux.
Poursuivant, elle a réitéré sa confiance aux participants quant à la mission qui leur est confiée.
Nous avons donc une mission très critique devant nous. Mais je suis convaincue que vous êtes tous à la hauteur de la tâche.
Ouverte depuis le lundi 25 novembre 2024, cette réunion des experts régionaux prendra fin le 29 novembre prochain. Il est à noter qu'elle est initiée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD, et le soutien financier des gouvernements de la Suède et du Danemark.
Après 2 jours de travaux, la 12e édition de la CEJCI Academy s'est achevée en début d'après-midi ce mardi 26 novembre. À l'issue de ce forum, des recommandations destinées à orienter les politiques publiques et les initiatives privées en faveur du développement de l'industrie des services en Côte d'Ivoire et en Afrique ont été formulées. Roselyne Barouan, présidente du comité scientifique, nous en fait la lecture.
Encourager les start-up de services logistiques par la création d'incubateurs et l'adoption d'un cadre réglementaire adapté, étendre la modernisation de nos infrastructures, ports, routes, télécoms, énergie, en dehors des capitales et des grandes villes. Fixer un quota aux femmes entrepreneurs dans l'accès aux marchés publics, vulgariser l'existence des organismes de financement auprès des femmes entrepreneurs et améliorer leur éducation financière, réduire le décalage entre les formations académiques et les besoins du marché du travail en développant de nouveaux modes d'apprentissage, s'appuyant sur les nouvelles technologies et intégrant la culture locale ainsi que les compétences du 21e siècle. Intégrer le sport en tant qu'industrie créatrice de valeur et d'emploi dans les stratégies de développement national, encourager les partenariats publics et privés pour financer des projets sportifs, notamment à travers des incitations fiscales. Intégrer les ICC dans des politiques transversales, tourisme, numérique, éducation, pour améliorer leur contribution à l'économie du pays. Mettre en place des fonds spécifiques et des garanties de prêts adaptées aux PME du secteur et développer des infrastructures culturelles, en particulier à l'intérieur du pays.
Roselyne Barouan, présidente du comité scientifique de la 12e édition de la CEJCI Academy. Le projet Emploi Jeune et Développement des Compétences PJDEC en est à sa phase 3. Une revue à mi-parcours a lieu depuis le lundi 25 novembre pour évaluer les progrès réalisés et formuler des recommandations en vue d'une exécution efficace du projet. Là-dessus, les détails avec Mata Touré.
Débutée depuis mai 2022, la phase 3 du projet emploi jeune et développement des compétences PGDEC 3 visait à asseoir la pérennité des acquis des phases 1 et 2 du projet, mais surtout à renforcer le mécanisme de coordination entre les secteurs publics et privés. Toile Herman est coordonnateur du BCP emploi.
Sur les effectifs, on a deux composantes. On a une première composante où les effectifs à date sont atteints. C'est la deuxième composante où on devrait donc donner un coup d'accélérateur. Et il y a également des réformes que le projet doit accompagner. Donc il va falloir discuter pour voir où on en est, quelles sont les recommandations.
Pour sa part, Yves Janssem, chargé de projet à la Banque mondiale, a souligné l'importance de faire le point sur l'état d'avancement du projet à mi-parcours.
En faisant cette revue à mi-parcours, on fait le point, on essaie de voir les choses qui fonctionnent et pour les accélérer, les choses qui fonctionnent peut-être un petit peu moins bien pour faire des corrections. Et donc cette semaine, voilà, les ateliers, les différentes sessions auront pour but de faire le point sur les différentes composantes du PGDEC.
On rappelle que l'accord de prêt pour la troisième phase du PGDEC est d'un montant de 132 millions d'euros en faveur d'un plus grand nombre de jeunes à travers une intensification et une extension du développement de leurs compétences. On compte 120 000 jeunes bénéficiaires directs et 300 000 bénéficiaires indirects.
Et puis, dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, un incubateur pour transformer les sous-produits du cacao a été construit à Gagnoa au profit de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. Le comité de suivi de cet incubateur l'a présenté le mercredi 20 novembre dernier, témoin pour Radio de la Paix, Abel César Cassin.
En ce qui concerne les briquettes combustibles envisagées pour remplacer à terme le charbon de bois, source de déboisement, le chef du centre de formation Nader Gagnoua, où l'incubateur est construit, Kwaku Kwadio-Leona, révèle certaines dispositions prises.
C'est de prélever tout ce qu'il y a comme intrant chez le producteur, les transformer, prendre un peu pour la maintenance de nos différents incubateurs, et puis retourner à la site au producteur les produits déjà fabriqués, pour que, même s'ils n'arrivent pas les ventes qu'ils utilisent, comme bois de chaux, ça permet de préserver l'environnement.
Et rassure cependant les producteurs de charbon.
Les vendeurs de charbon, en remplacement progressif du bois de charbon, on n'enlève pas leur travail, mais c'est la matière qui diffère. Il ne faudrait pas qu'ils soient concurrencés, il faudrait qu'ils soient dans le maillon, sinon c'est un blocage.
Le président du conseil d'administration du conseil du café cacao, Siaka Koulibaly, dont la structure s'intéresse à ce projet, fait une proposition.
Des briquettes combustibles, c'est encore une opportunité à le jeune. Le jeune a créé des caisses et puis faire la diffusion nous-mêmes, de façon à ce que le prix de vente soit compétitif vis-à-vis des autres produits qui sont sur le marché.
Les membres du comité de suivi de l'incubateur ont présenté par la suite les lignes de production du champignon, des briquettes, du vinaigre aux partenaires techniques de ce projet financé par la coopération allemande dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique. Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, au Mali, l'ex-ministre de l'économie tente d'obtenir sa libération. Le procès de l'affaire de l'avion présidentiel et des contrats militaires surfacturés a été suspendu le 9 octobre dernier. Boiré-Fili Sissoko, qui est poursuivi notamment pour corruption et atteinte aux biens publics. En détention préventive depuis plus de 3 ans, son énième demande de libération a une nouvelle fois été rejetée le 13 novembre dernier par la chambre d'accusation de la Cour suprême. Hier lundi, son avocat s'est pourvu en cassation auprès de la chambre criminelle de la Cour suprême, rapporte l'AFP. Et puis, l'Organisation internationale de police criminelle Interpol a annoncé ce 26 novembre le résultat d'une grande opération contre la cybercriminalité qui a débouché sur un vaste coup de filet dans 19 pays du continent. Opération menée de début septembre 2024 à fin octobre 2024 avec Africpol, institution technique dépendant de l'Union africaine. Au total, ce sont plus de 35 000 victimes qui ont été identifiées, essentiellement en Afrique et en Europe, menées avec l'aide des fournisseurs d'accès d'Internet. Ces derniers ont joué un rôle essentiel, précise Interpol, grâce notamment au partage d'informations. C'est la fin de ce 18h, le rappel de l'essentiel. Plus de 4 000 emplois bien bientôt générés avec la mine d'or découverte à Tanda par Endeavour Mining. C'est le quatrième investissement à hauteur de 530 milliards de francs CFA du groupe minier canadien dans le pays. Information donnée ce mardi au cours d'une rencontre avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Hors de nos frontières, cybercriminalité, un millier de personnes arrêtées dans 19 pays d'Afrique lors d'une vaste opération. Merci de votre attention. La suite avec Aoussi Potin pour le magazine Mon droit au quotidien.